de prison ferme, le tribunal de Rabat a tranché. La journaliste marocaine Hajar Raissouni a été condamnée pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Même peine pour son fiancé, 2 ans pour son médecin gynécologue pour pratique d'avortement illégal. La jeune marocaine de 28 ans dénonce, elle, un procès politique lié aussi à sa fonction de journaliste.
Au Maroc, les arrestations de journalistes se suivent et se ressemblent. Pression, intimidation, procès pour crimes ou délits de droit commun et condamnation. Mon invité s'appelle Hicham Mansouri. Il a cofondé l'Association marocaine pour le journalisme d'investigation. Lui aussi, il a senti peu à peu l'étau se resserrer. Lui aussi, il a subi une interpellation aussi violente qu'humiliante. S'en sont suivis 10 mois de prison dans l'enfer, et je pèse mes mots, d'une geôle surpeuplée près de Rabat. Pour ne pas sombrer dans la dépression et la folie, il a enquêté, c'est son métier, et il a écrit, ça aussi, c'est son métier. De ses bloc-notes, il a tiré un petit livre, implacable et saisissant. À sa libération, Hicham Mansouri a fui illico son pays, il est réfugié à Paris.
L'instant M, Sonia de Villers, sur France Inter.
Et avant de vous présenter Hicham Mansouri, j'ai le plaisir de remercier, d'embrasser, de saluer toute mon équipe, Anne-Cécile Perrin, la réalisation, Redouane Tella, Marion Philippe, qui ont programmé et préparé les émissions, Sana Rezag Barra, qui les a aidés, et à la technique ce matin, Jenab Sangaré est avec nous. Bonjour Hicham Mansouri.
Bonjour Sonia.
Voilà, il faut que je vous voie à travers la buée, oui, qui s'accumule sur vos lunettes. Soyez le bienvenu dans cette émission. Ce petit livre qui m'a saisi et ému s'appelle « Au cœur d'une prison marocaine ». Ce sont les éditions Libertalia et Lorient 21 qui l'ont publié. C'est un tout petit format. Il y a même des reproductions de vos bloc-notes où vous avez dessiné, vous avez croqué les cellules dans lesquelles vous avez été incarcéré. On en parle dans un instant, Hicham Mansouri. D'abord, il y a notre petit jeu du vendredi matin. Notre cadeau, je vous en avais déjà parlé, c'est cette très belle histoire en bande dessinée, La Bibliomule de Cordoue, par Lupano et Cheminot. Ça se passe à la fin du Xe siècle, dans les méandres de la bataille qui oppose les Omeyyades aux Abbassides. Bref, pour le gagner, je vous demande de reconnaître cette voix que vous connaissez évidemment, cette voix qui a présenté le journal de 20h.
Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La fête techno pour le 80e anniversaire du Parti communiste ne fera pas oublier l'essentiel du discours de Robert Hue, qui parle des monstrueux aveuglements du modèle soviétique qu'a suivi le PCF.
Eh oui, les affres du PCF et du modèle soviétique, ça ne nous rajeunit pas. Comment s'appelait cette présentatrice du 20h? Allez hop, votre réponse à l'instant M tout attaché, l'instant M à radiofrance.com. Dépêchez-vous, et puis moi au passage, je vous remercie pour vos milliers de messages après l'interview d'Alain Mabankou mardi dernier.
فينا اسمعين فين اسمعين لقيتي خدمة ولا باقي جوزتي فاتي ولا ناوي ركضو تناوي ولا فاقو عمر الراس ولا خاوي عمر الكاس ولا خاوي طيح المورال ولا عالي.
Et c'est Hicham Mansouri lui-même qui a choisi cette chanson. Soyez le bienvenu dans cette émission « Au cœur d'une prison marocaine ». Il faut peut-être commencer par raconter votre quotidien de journaliste d'investigation au Maroc. Hicham Mansouri, encore très récemment, comment petit à petit vous sentez la pression s'accroître sur vos épaules? Comment un jour on vous coince dans une ruelle sombre vers 22h? Comment un jour vous êtes passé à tabac sans savoir par qui ni pourquoi?
Merci encore pour cette invitation. À l'époque, j'étais directeur de programme de l'Association marocaine pour le journalisme d'investigation. Et l'idée remontait à 2009, en fait,
oui.
En marge d'une formation on a décidé, 4 ou 5 personnes, de créer une petite structure. On n'avait pas cette vision de ce qui va se passer par la suite, parce qu'on va réussir à élargir le réseau sur 13 villes, à commencer même à penser à créer un réseau en Afrique. On a commencé à avoir des partenariats, des propositions de partenariats de diverses ONG, et même agences de presse comme Reuters, etc. Mais la reconnaissance de notre association n'est venue que le 22 février 2011, soit 2 jours après la version marocaine du printemps arabe.
Oui.
Donc ça donne une idée un peu que le projet n'était pas le bienvenu dès son début. Après, comme je l'explique dans le livre, je pense suffisamment, parce que je ne suis pas le seul.
Non.
Dans le livre, je parle pas beaucoup de moi d'ailleurs, je parle plus de mon expérience carcérale, mais ce que j'ai subi, je l'ai subi, si on peut dire, avec tous les collègues de cette association. Les visites, le piratage du site internet qui a été remplacé par un contenu pornographique. Et puis,
les descentes de flics pour un oui, pour un non.
Exactement. Et puis l'agression de septembre 2014, où je sortais d'une réunion avec mon ami et collègue Mahdi Mounjib, mm-hmm. où j'ai été agressé par 2 inconnus. Et puis il y a le 17 mars où la police débarque chez moi pour me déshabiller, pour me poursuivre, pour complicité d'adultère, et même tenue d'un local de prostitution.
Oui. Et donc, quand vous dites la police débarque chez moi, elles sont tellement spectaculaires, violentes et humiliantes, ces interpellations, que vous prenez le soin de la raconter. La police, c'est 10 hommes en civil armés, ultra-violents, qui défoncent votre porte.
Qui défoncent la porte, et je pense à des criminels, je pense qu'ils le sont. Et quand ils ont vu que j'ai commencé à crier, à avoir une tachycardie, c'est là où le chef, il a dit police, police.
Ouais.
C'est un épisode sur lequel je n'arrive pas toujours à revenir, et je pense que c'est un moment qui a aussi été une source de je dirais pas motivation, mais de rage. Et cette manière de vous humilier, de vous déshabiller, et puis de vous faire sortir de la maison
nue,
il y avait une petite serviette, on m'a déshabillé de nouveau au commissariat. Et donc il y a une volonté de vous humilier, oui.
Oui. Ouais. La rage de tenir pendant 10 mois ensuite en prison. Vous allez subir 2 jours d'interrogatoire, Hicham Mansouri. Et prenez votre temps, buvez un petit peu d'eau, on a tout notre temps. On racontera ce qu'on peut de cette histoire. De toute façon, les auditeurs vont acheter ce petit livre et vont le lire. Vous allez subir 2 jours d'interrogatoire. Ce dossier, on vous accuse donc de tenir un local de prostitution et d'être complice d'un adultère, est entièrement démonté au procès par vos avocats. De toute façon, le juge ne vous regarde même pas, il confirme la peine. 10 mois en prison. Et vous partez dans cette prison que vous allez décrire très minutieusement dans ce petit livre. Une prison qui est près de Rabat. Une prison qui est surpeuplée à
173%. Exactement.
Racontez les premières cellules dans lesquelles vous allez entrer.
Alors déjà, j'ai commencé à me renseigner pendant la garde à vue, en posant des questions aux détenus récidivistes. Et on m'a rassuré, on m'a dit, écoutez, c'est votre première fois d'abord. Ensuite, il ne s'agit pas d'un vol à main armée, etc. Vous allez être affecté dans le bloc A, ou M2 ou M1. Ils m'ont dit, c'est tranquille, vous pouvez lire, vous pouvez écrire, etc. Ce qui va se produire par la suite, c'est l'inverse, c'est-à-dire je vais voir certains de ces récidivistes violents, il y a viol, il y a braquage, il y a tout ce que vous voulez. Certains être affectés dans ces blocs plutôt normaux, voire parfois confortables, parce qu'il y a aussi des quartiers de luxe. Et moi, être affecté dans ce qu'on appelle Zbala en arabe, qui veut dire la poubelle,
le bloc D. Donc le journaliste d'investigation arrêté au Maroc, il est envoyé à la poubelle. Il est envoyé à la poubelle, chaque cellule est littéralement surpeuplée. Et la première chose que vous décrivez, Hicham Mansouri, c'est que vous manquez d'oxygène.
Oui, oui.
Et on peut pas respirer.
Un gardien me l'a dit, il m'a souhaité la bienvenue, il m'a dit on va bien s'occuper de vous. Je ne savais pas dans quel sens, mais quelques heures après, quelques minutes après, j'ai compris. Et donc, en rentrant de couloir, c'est aussi une scène que je n'oublierai jamais. C'est de voir les détenus entassés, carrément entassés qui débordent des barreaux, des cellules, et qui me réclament, c'est-à-dire qui disent au gardien, amenez-le chez nous. Et c'est des cellules destinées à 15, maximum 24, parce qu'il y a des lits qui sont bricolés, et on était 40, et ça peut aller jusqu'à 60. Ouais. Et ça, comme je le dis aussi dans le livre, les autorités ont fini par l'avouer. Il y a même des vidéos sur Internet que vous pouvez consulter s'ils ne sont pas supprimés dans les jours qui vont arriver. On ouvre les portes de ces cellules et je vois mon bloc et c'est ma cellule ou c'est l'une des cellules du bloc, D, on voit D, et le directeur de la prison lui-même qui avoue que ces cellules accueillaient jusqu'à 60 personnes. Ils ont fait ça pour justifier la démolition de cette prison.
Ouais. Alors, on dort par terre, tête bêche, ouais. Et on dort dans la peur, dans la terreur d'être violé. En fait, on vit 10 mois dans la terreur permanente d'être passé à tabac, de prendre un coup de poignard égaré dans le chaos des bagarres entre détenus. On vit dans la terreur permanente de se faire casser la gueule par des gardiens qui ont du temps à tuer.
Le plus dur pour moi, c'est la durée pour moi de prison, elle se mesure pas en année, même si c'est important. Je veux dire, plus la durée est longue, plus c'est dur. Mais on peut vous faire souffrir même en 2 ou 3 jours, en 1 mois. Et pour moi, c'est l'arrestation, c'est-à-dire ce qu'on m'a fait. Et ensuite, les premiers jours et le premier mois. Parce que par la suite, je vais quitter ce bloc grâce à une grève de la faim. Ouais. Mais pour moi, quelque chose a été déjà fait, a été déjà touché, détruit. D'un autre côté, c'est le fruit du livre et j'ai tout de suite compris, malgré tout ce que je décris dans le livre et ce que vous venez de dire, le fait de dormir près des toilettes sur un sol mouillé et crasseux, être vite envoyé de poux, les bagarres, les automutilations et tout, et des gens aussi armés. Malgré tout cela, dès le premier instant, j'ai vite compris que j'étais dans une position un peu unique. Et il y avait une infime partie de moi qui était, je dirais pas heureuse, mais consciente que je devais saisir cette occasion. Ouais. Et donc finalement, je pense que ces quelques semaines, ce premier mois que j'ai passé dans le bloc D m'ont été très utiles, parce que c'est là, j'aurais pas compris cette cartographie, ce fonctionnement de ce business illégal sans ce passage malheureusement douloureux de ce bloc.
Alors le business illégal, justement... Vous êtes dit, je vais rester un homme, et pour rester un homme, je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, je vais continuer à écrire, je vais continuer à penser, à réfléchir, à observer, à regarder, à vouloir comprendre, à enquêter. Je vais continuer à faire mon travail de journaliste. Et donc, vous commencez à regarder ce que c'est qu'une prison marocaine, c'est-à-dire un vaste réseau de corruption, comme il en existe peu au monde, et vous commencez à tracer le business illégal, du shit, de l'herbe et de la cocaïne. En fait, vous commencez petit à petit à pister la drogue dans une prison marocaine.
Oui, en plus des drogues, il y a aussi les téléphones portables, oui. Le papier à rouler. Il y a aussi le marché de l'alimentaire. En fait, le problème que j'ai rencontré
tout
en rédigeant ce livre, c'est justement ça. C'est que je devais écarter beaucoup de choses. La première chose qui m'a frappé, c'est... Inversement, parce que c'est une miniature de la société marocaine, c'est la transparence avec laquelle, entre guillemets, avec laquelle les choses se font.
Donc, c'est ça, au su et au vu de tous.
Il suffit d'observer, ce n'était pas compliqué, donc j'étais un peu surpris. Donc tout le travail était d'absorber un maximum d'informations et puis d'essayer d'approfondir, ne pas se limiter à la description des petits dealers ou des jeunes consommateurs qui sont finalement victimes de ce business, c'est d'aller au-delà de la mécanique et du rouage de ce travail. C'est ça qui a demandé un peu plus de travail et de recherche.
Alors ce petit livre, il est tiré de 30 bloc-notes. C'est très émouvant quand vous dites que ces bloc-notes... qui vous ont tenu en vie, vous les avez passés dans des ballots de linge sale à votre famille, hein, votre famille qui habitait à 500 km de Rabat, du côté d'Ouarzazate, c'est ça ?
Exactement.
Qui a déménagé pour être près de la prison, pour pouvoir vous rendre visite. Vous leur passez dans des ballots de linge sale, mais surtout vous inventez une langue propre à ces bloc-notes pour échapper à la censure, pour échapper à la surveillance, à la délation des autres détenus, mais aussi pour préserver votre famille. Parce qu'en fait, vous leur rendez des documents qui sont extrêmement compromettants.
Je l'ai découvert par la suite. Bon, le fait de cacher dans le hache-sale, c'était une précaution parce que la prison, ils surveillent plus l'entrée que la sortie. Ouais. Mais moi, le risque, qu'est-ce que je risquais? C'est simplement de m'interdire les bloc-notes, de m'interdire. Parce que ça, d'ailleurs, ça s'est produit pendant certaines périodes où j'ai écrit sur des mouchoirs ou des feuilles. Donc, je voulais. Et puis, on pouvait aussi me fermer des pistes, le contact avec les gardiens, etc. Et même avec certains détenus. Donc, c'est par précaution que je l'ai fait. Pour la langue codée, ça m'a aussi causé des problèmes, puisque j'ai pas réussi à déchiffrer certaines choses, en oubliant. Donc, je me suis attribué un surnom, parce que un jour, j'ai compris que finalement, ma famille, à chaque visite, je les rassure que tout se passe très bien. Donc, je voulais leur épargner un peu ce que je vis en prison. Mais ils ont trouvé dans mes bloc-notes une source plus fiable d'informations. Donc, j'étais obligé à chaque fois, il y a un incident un peu grave, de dire que donc je me suis attribué un surnom.
Pour ne pas les plonger dans la panique et pour ne pas les plonger dans l'effroi. Vous faites, Hicham, vous dressez dans ce petit livre des portraits brefs de gardiens qu'on n'oublie pas une fois qu'on le referme. Il y a Mustapha, il y a Jaguar. Jaguar, c'est vraiment l'ultra-violence et la cruauté incarnée, faite homme en réalité.
Jaguar, je le décris, c'est un homme, pour moi, c'est un personnage de cinéma. Oui. Il est décédé quand j'étais en prison suite à un accident. Et ce qui m'a interpellé dans ce personnage, au-delà de sa violence et de son calme et de son charisme aussi, pour le décrire, c'est aussi comment il a divisé les détenus, c'est-à-dire devant sa mort, comment les détenus qui ont souffert dans son pire traitement, ils se sont réunis, ils ont organisé un tournoi, ouais, de football,
en sa mémoire,
de l'argent même pour sa famille, et donc ça a divisé la cellule, si on peut dire, la mort toute la prison. Et c'est vrai que c'est l'un, malheureusement,
mais de la même manière que vous dites de Mustapha, qui cogne chaque détenu qu'il croise, qui le cogne au visage, qui le cogne sur la poitrine ou qui le cogne dans le dos, et vous dites des détenus, pour beaucoup, être frappé par Mustapha veut dire être apprécié.
Oui, c'est un signe de proximité. Voilà, c'est la prison. C'est, il y a des codes. J'ai pris du temps à le comprendre. Ouais. Et quand j'ai commencé à le comprendre, voire à les utiliser avec les détenus, ça les faisait beaucoup marrer. Je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé, le fait de m'intégrer entre guillemets avec eux, de comprendre leur langage et tout. Et c'est vrai que c'est différent. C'est physique. C'est différent, c'est un des moyens de communication. D'ailleurs, lorsque c'est détenu, ils me demandent beaucoup de leur écrire des lettres. Mais les lettres qu'ils envoient le plus, c'est quand
ils s'automutilent. Il y a une page absolument incroyable sur les automutilations. Des détenus qui n'ont rien d'autre pour s'exprimer que de se taillader le corps ou de se coudre les yeux.
Ils sont forcés pour qu'ils soient convoqués chez le directeur, pour, ouais, qu'ils soient écoutés.
Pour qu'on les entende.
Ouais. Pour qu'une fois, on se dit qu'elle existe.
Ouais. Quelque chose me dit, c'est la fin de l'émission, Hicham Mansouri, que le royaume a voulu vous interdire de faire votre métier. On vous a mis en prison pour que vous cessiez d'enquêter. Et au final, il en est sorti une enquête beaucoup plus compromettante, probablement, que vos précédentes publiées. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin. Au cœur d'une prison marocaine, c'est donc sorti aux éditions Libertalia, avec Lorient 21. Je voudrais féliciter Coralie, qui a reconnu en 5 secondes et demie Béatrice Schoenberg, qui présentait le 20h de France 2 il y a quelques années. Et puis, vous dire au revoir et à lundi.